Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous sommes de nouveau ensemble pour ces lectures en liberté et la fin du récit de Jacques Josse, Café Rousseau. Le malade respire mal. Il s'arrête, ravale ses quintes. Depuis quelques instants, il voit dans l'obscurité. Il suit une ombre en mouvement sur le mur. Il fixe le papier peint, repère une toile d'araignée, puis une autre qui part de la casquette accrochée à un clou près de l'horloge Ricard pour se diriger vers le baromètre. À une vingtaine de centimètres de là. Très vite, l'ombre se déchire. Une figure prend forme. Les yeux lavés par les larmes, le visage de sa mère apparaît. Elle porte du noir une voilette et un sac, se tient debout sur le quai. Lui, il a 12 ans et il pleure aussi. Il revoit la scène du début jusqu'à la fin. Jamais sa mémoire ne l'aura trahi. Elle recèle des centaines de diapositives et il vient inconsciemment d'en extraire une série. Il revoit le port, les Fenwicks, les caisses, les docks. Un camion démarre. Le froid crevasse la gueule rouge des hommes. Un chien aboie, une femme trébuche. La corne de brume s'en mêle. Il revoit tout et surtout ce geste vif, presque violent, qui fut celui de sa mère ce matin-là, quand elle lui prit la main, la serra fermement, l'entraînant à sa suite. « Viens, » dit-elle, en enjambant le frêle ponton improvisé qui reliait le quai au bateau. « Viens !» Au loin, une sirène invisible et lugubre, noyée dans de la purée de pois, hurlait à la mort. « Viens ! On va dire au revoir à ton père. » Rousseau se tourne. Il regarde Inizan droit dans les yeux, lentement, à voix basse. Il se met à lui conter ce fragment d'enfance. À un moment donné, tout le monde claquait des dents sur le chalutier arrêté en haute mer. Un enfant de cœur, 8-9 ans, pas plus, s'est avancé. Tremblotant, l'aube au vent, l'encensoir à la main, il a tendu le récipient au prêtre, un grand sec, style Pie XII. Celui-ci a aspiré une goulée de fumée, a levé le nez au ciel, et tout à coup s'est mis en devoir d'asperger les flots en dégoisant des suppliques inaudibles, tandis que la vingtaine de personnes réunies pour la cérémonie des prières en l'honneur de l'âme errante de mon père balançait des gerbes de fleurs à la volée par-dessus bord. L'odeur d'encens se mêlait à celle du gasoil. À intervalles réguliers, la lanterne du pan essayait de déchirer la brume. Le prêtre agitait toujours sa cassolette. Pour finir, ma grand-mère s'est avancée et l'a tiré divers présents de son cabas. Un à un, elle les a, elle aussi, jetés à la mer. Il y avait là, pêle-mêle, une boussole enrubannée d'or, une couronne reproduisant la rose des vents, un Christ jaune, un fer à cheval et une casquette bleue avec la photo d'un enfant cousu à l'intérieur. « Que Dieu te protège !» murmura-t-elle. Avant que ses paroles ne se perdent, bues par l'obsédant clapot de l'eau qui durant tout ce temps n'avait cessé de cogner contre la coque du bateau. Les yeux du cabaretier remuent dans la pénombre. Il est en train de devenir le jouet de ses propres souvenirs. Ma vie de marin a dû débuter ce jour-là quand ma grand-mère a balancé ma photo à la flotte. Un rictus barre son visage. Je revois sa femme de pomme cuite. À la fin de sa vie, ma mère avait la même. Il entr'ouvre à nouveau les lèvres. Un sifflement de fourneau mal réglé s'échappe de sa poitrine. Au milieu du lit, le gigantesque dôme du ventre affronte les soubresauts d'une houle née au-dedans des tripes. Le tromboniste doit encore jouer à l'intérieur. Inizan se souvient des propos du docteur. Il fixe la truffe, les moustaches grises, les trois mentons du malade. Je vais achever cette histoire au plus vite. L'abbé fronce les sourcils, il hoche la tête. Le cafetier puise dans ses réserves. Il met un point d'honneur à paraître d'attaque alors que sa tête lourde tombe roule d'Odeline au creux des vagues. L'éphémère enfant de cœur qui tremblotait sur le chalutier s'appelait bien sûr Robert le R. Il sourit péniblement, ferme le poing, le pose sur son cœur, tapote, soupire. Dieu seul sait quand ce moulin déglingué va lâcher prise. L'abbé ne bronche pas. Il se lève, contourne le lit, s'approche de la fenêtre, en passant allume les trois bougies du chandelier, en profite pour s'enfiler une ultime rasade de gnôle et, revenu à sa place, se pare de l'étole violette, sort le flacon d'huile de sa sacoche, le glisse dans sa poche, rafistole son faux col en celluloïde blanc et réactive le chapelet. Rousseau ne perd pas une miette des préparatifs. Il redémarre tout de suite. Pour le R, tout a basculé en une demi-heure. Je devais me trouver au large des côtes africaines, quelque part entre Casa et le terminal d'Accra. Enfin, peu importe, pour comprendre, il faut revenir à sa mère. C'est elle qui détient la clé de l'énigme. Veuve, 45 ans, belle encore. Pas un homme dans sa vie, mais en revanche, tout autour, là, oui, il y en avait des dizaines. Son problème, c'est qu'elle ne pouvait pas en croiser un sans éprouver un violent désir. La raison rongée par ça, toujours à se demander ce qu'il y avait dans la culotte. Comment il s'y prendrait avec elle, ce type, l'autre là-bas, ou l'autre encore, le moustachu, le voisin, le maire, le curé. Le cabaretier guette la réaction du prêtre, mais celui-ci manœuvre inexorablement ses os à la régulière. Oh oh, soyons clairs, elle avait bien le feu au cul, ajoute-t-il en hoquetant. Des tonnes de désirs, des fantasmes à l'appel, tous forcément inassouvis puisque la façade qu'elle se forgeait en public était celle d'une femme austère, à cheval sur les principes, catholique à l'excès. L'ex-marin s'efforce de bouger la tête de gauche à droite plusieurs fois de suite, l'air de montrer qu'il désapprouve une telle attitude. Alors, ce qu'elle ne pouvait pas vérifier dans la culotte des autres. L'abbé se redresse d'un coup sec. Rousseau, tu veux dire que... Par le biais d'une mimique sans équivoque, celui-ci s'excuse. Nom de Dieu ! Inizan lâche son chapelet. Rousseau relève encore ses vieilles paupières de chien battu. On croirait des cosses d'ajon bouffées par la sécheresse, prêtes à s'effriter au contact des doigts. Trois ou quatre fois l'an, le R venait passer quelques jours à la ferme. De séjour en séjour, sa mère le cajolait toujours un peu plus. Le soir, elle arpentait le couloir, elle se mettait à rôder autour de la chambre. Puis elle toquait à la porte, entrait, s'asseyait sur le bord du lit. Elle le frôlait, le touchait simplement du plat de la main par-dessus les couvertures. Elle faisait des efforts pour se retenir et finalement se retirait, la mine défaite, sans doute un peu honteuse, pour se réfugier dans la chambre du bas. Tout s'est passé ainsi. Jusqu'à ce soir de décembre 1956, où elle n'a pas réussi à contenir sa fièvre. Sa main s'est mise à gigoter toute seule, sous les draps, avec dedans ce que tu devines. Nom de Dieu, de nom de Dieu ! Elle devenait folle, inisant, en proie à une implacable folie, avec une sacrée toile d'araignée au plafond. Rousseau se racle la gorge. Il se prépare à cracher, mais au dernier moment, ravale sa boulette de morve. Tout en elle disjonctait. Et il y avait la guerre, bien sûr. Séminariste ou pas, elle savait bien que son fils allait partir en Algérie, sans doute connaître le même sort que beaucoup d'autres, y laisser sa peau, peut-être même y perdre son âme. Alors avant, après, va deviner ce qui lui trottait dans la tête. Le regard perdu, le palabreur se braque sur les poutres. Il marmonne. Deux vies foutues en l'air pour une peccadille. Durant quelques secondes, Inisan se cache le visage. Ensuite, ses mains coulent lentement de son front jusqu'à son menton, comme s'il désirait, par ce mouvement simple effectué dans une parfaite maîtrise de soi, se purifier de tout. Il ouvre les yeux. Ne songe même plus à récupérer le chapelet tombé par terre. « Fais-moi une petite place, Rousseau. » demande-t-il. Le colosse transporte péniblement ses 130 kilos sur la gauche. Inisan s'allonge à côté de lui. Il croise les mains sur sa poitrine, divague à la lueur des bougies, déplie déjà sa cape de présidence en préparant mentalement l'oraison funèbre du lendemain. Puis il prie, reprend. Change de couplet, recommence. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sommeil le gagne.
Oh! One bourbon, one sky. One beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since not a full life. Wanna get drunk and get her off my mind. One bourbon, one sky, and one beer. Sit there, drinking, getting stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one sky, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow, feeling so good, so good. I look down the bar at the bartender. I say, hey, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. I wanna get drunk and get up mind, one bourbon, one scotch, one beer. Then I'll sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall, at the clock on the wall. By that time, 1:45, last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer.
À nouveau le Café Rousseau de Jacques Josse, après l'habituelle pause musicale.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Endormi au creux de son antique grabat de métal avec un prêtre aux cuisses musclées à sa droite, Rousseau est paré pour le grand départ. Il a d'ailleurs demandé à son corps de l'amener là où il le désire. Quelques bruits vont les bercer, accompagner le passage. L'horloge, évidemment. Les souris qui grattent au grenier, le vent qui ronfle de plus en plus fort sous les ardoises. Mais aussi le chant régulier d'une moissonneuse batteuse qui continue de tourner dans la nuit. Deux ou trois tracteurs sillonnent également la campagne. Inizan refait surface. Un peu surpris de se retrouver en pareille posture, allongé sur les couvertures, près du moribond qui râle, la bouche entrouverte, un léger sourire aux lèvres. Il réentend les dernières paroles de Rousseau. Décide de les laisser mariner en lui et imagine en guise de diversion les hommes au travail à la lumière des phares, là-bas, dans la vallée. Ils veulent finir avant la pluie, murmure-t-il. Une odeur de cire se répand peu à peu dans la pièce. Le prêtre apprécie la scène, le décor, la pénombre, le chandelier. Bon, allons-y, dit-il en sautant du lit. Le flacon jaune, la flasque incolore, les tampons doigts, l'hostie, le crucifix, la cruche, la coupe. Il nomme les objets au fur et à mesure qu'il les dispose sur la table de chevet. Au loin, la moissonneuse s'arrête. Il peut être 2 heures du matin. Un chien esselé hurle dans la cour de ferme. Un autre lui répond sèchement. Rousseau s'affaisse. Il râle une fois encore. Sa lèvre inférieure mord sa moustache. Une main accrochée à la ferraille et l'autre crispée sur les draps, il écoute son corps. Celui-ci a tranché. Il lui dicte ses ordres. Il faut mettre définitivement le cap sur le cimetière du bourg. Don des morts. Le cul du camion rouge bute contre la porte d'entrée. Inizan est installé à l'intérieur du véhicule. Assis à la place du mort, il prie, marmonne et médite. On ne sait quoi. Tandis qu'un autre là-haut s'active pour deux. On l'entend. Il cogne à coups répétés, s'arrête, descend, pose un pan de ferraille sur le plateau et puis remonte. Fait claquer la porte de la chambre, grimace, cogne, démonte. « Je vais être obligé de le finir au marteau » gueule-t-il tout à coup, le corps à demi penché à la fenêtre. « Faites pour le mieux, monsieur Popeye, faites pour le mieux et ne vous occupez pas de nous, » répond l'abbé, en gueulant lui aussi. « Le fer a rouillé et les montants ne se déboîtent pas facilement. On pourra quand même le remonter. Pas de problème, mon père, un peu d'huile, quelques ressorts à réparer, une bonne couche de peinture, et vous aurez un lit presque neuf. » En un clin d'œil, Popeye s'éclipse. Du haut de la cabine du camion, Inizan aperçoit la mer, les franges vertes, les îles, l'écume. Le temps est reparti au beau après 2 semaines de pluie. Il se détend, se sent presque soulagé, consulte son carnet de bord. 3 noms ont récemment été rayés, fauchés à la fin de l'été. C'est pour cela qu'il les a biffés à l'encre bleue sur son répertoire. Il possède un stylo à 4 couleurs, une pour chaque saison. Ce matin, il a enclenché la rouge, signe que l'automne est de retour. Et la rafale des morts avec lui. Il sort sa fiole, dévisse, se jette une rasade de suze. Le docteur lui a prescrit ce nouveau breuvage. « J'ai comme l'impression que votre foie sature, » lui avait-il glissé à l'oreille, dans la pénombre de l'aube, quelques heures à peine après la mort de Rousseau. Le diagnostic tombait assez mal. L'abbé avait l'esprit retenu ailleurs. Il fallait en effet descendre le corps du colosse avant qu'il ne soit tout à fait froid pour l'exposer sur 2 canapés dépliés et posés l'un contre l'autre face au bar dans la salle du bas. Le café Rousseau vivait vraiment ses derniers instants. Peu à peu, les habitués s'étaient regroupés, tous levaient le nez en direction de l'escalier. À l'étage, le menuisier, son apprenti et quelques autres s'étaient attelés à la tâche. Debout dans le couloir, son cabas grand ouvert, Mélanie souriait aux anges. Dehors, Hubert ne tenait pas en place. Pris dans le mouvement, il avait quitté son domaine de la Croix des Forges. Il était venu jusqu'ici en fourche. Il se tenait d'ailleurs déjà prêt à repartir à califourchon sur le manche de l'outil, actionnant une poignée imaginaire de la main gauche en imitant le bruit d'un vélomoteur qui en a marre de tourner au ralenti. C'est au milieu de l'escalier, juste avant de négocier le virage en coude, alors que le professeur Karoff multipliait les grands gestes pour diriger la manœuvre, que le docteur entreprit de revenir à la charge. Cheminant en dernière position après de l'abbé, il embraya à nouveau sur le foie, un peu paresseux de celui-ci. « Croyez-moi, il tique sur l'agnole. Vous devriez, mon père, adoucir vos mœurs à la gentiane, sans pour autant en abuser. » Le curé ne répondit pas. Il plia simplement la nuque, le docteur sifflota, leva les yeux et préféra s'en tenir là. Inizan décoche une grimace à la mer. Il a bloqué le manège de sa mémoire. Il se regarde dans le rétroviseur intérieur. « J'ai ma gueule des mauvais jours, mais tant pis, » note-t-il en sirotant une 2e gorgée de suze. Le nouveau remède n'a pas mis longtemps à recueillir ses faveurs. Il l'a d'abord testé à petite dose, puis il s'y est mis carrément. La gentiane s'avère un rien rebelle. Il apprécie ses retours d'amertume. Elle claque contre son palais. Grâce à elle, les plages d'Espagne reviennent même de temps en temps hanter ses rêves éveillés. Il se tasse, baisse la vitre, se racle la gorge. « Et en plus, ça fait du bien par où ça passe, » songe-t-il, en caressant son chat adoptif, l'ex-matou gris de feu la vieille briquire, qui ronronne. Ouvre les yeux, les ferme à demi, les rouvre, les referme, et pour finir s'enroule en boule sur le siège à la place du conducteur. 10 minutes plus tard, le livreur balance les 4 pieds du lit sur le plateau. « Voilà, c'est terminé, » dit-il, en se frottant les mains. Il pisse contre le pneu avant droit du véhicule, grimpe sur le marchepied, ouvre la portière, crache par terre, prend le chat par la peau du dos et le pose sur les genoux d'Inizan. Il s'installe. allume sa pipe, met le contact, démarre, passe en première, enclenche la seconde et la troisième dans la foulée. D'un coup, le camion bondit, se cabre et tressaute sur le chemin creux. Inizan ne dit rien. Il se cramponne à la portière. Il a les griffes du chat plantées dans les cuisses. On ne va pas tarder à trouver la bonne carburation. Popeye accélère. Il bombe le torse. Il tire fort sur sa pipe. Il porte un t-shirt crème avec une publicité « Boisson 2000 » inscrite en lettres rouges sur sa poitrine. Ils sont maintenant sur la grande route, juste à l'amorce du premier virage. Il y en a 15 comme ça. L'abbé l'essaie très prononcé. Il garde un œil sur le compteur, se rend bien compte de l'espèce de folie qui est en train de naître dans la cabine. Tout à l'heure, on va traverser le bourg à fond la caisse, crie Popeye, en lâchant le volant pour caresser le chat. Il redresse in extremis, sur l'herbe, à 2 centimètres de la falaise. Rien que pour faire peur aux vieux, ajoute-t-il. Voilà, nous avons donc terminé la lecture de Café Rousseau, un récit de Jacques Josse, et nous nous retrouvons demain pour d'autres lectures en liberté. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.